Allons au fait par Régis Debray, le religieux mi-honnête.
Que faut-il entendre par laïcité ? Il y a loin du simple esprit de tolérance à la stricte architecture juridique qu'est la laïcité, originalité française. Celle-ci n'est pas destinée à nettoyer la société de toute empreinte ou signe religieux, mais à préserver l'espace public de l'emprise des religions. Or, l'effacement de la séparation entre public et privé lié à l'évanescence de l'État met aujourd'hui sérieusement en danger notre laïcité. Raison de plus pour la défendre. Qu'est-ce qu'on a donc aujourd'hui en commun, vous et moi ? À part le français pour s'exprimer, et dans le meilleur des cas, des papiers en règle dans la poche. Qu'est-ce qui relie 60 millions de nombrils juxtaposés dans un même hexagone ? Qu'est-ce qui peut, en cas de crise, empêcher un espace de solidarité de voler en éclats ? Comme cela se voit en ce moment même dans plusieurs dizaines de pays. Avec la centrifugeuse du tout à l'ego et des réclamations communautaires, c'est une question qu'on commence à se poser dans la France du chacun chez soi. Nous cherchons tous un principe symphonique capable de refaire un « nous ». C'est d'ailleurs le souci de toutes les agrégations humaines tant qu'elles rechignent à se désagréger. Oui, l'unité d'un millefeuille, c'est cela l'exploit à recommencer chaque jour et partout. C'est cela l'opération magique, très bien résumée par la devise des États-Unis d'Amérique, « et pluribus unum ». À partir d'une pluralité, faire une unité, extraire d'un pluriel un singulier, faire un peuple avec des populations. Des ethnies, des métiers, des corporations, des lobbies. C'est bien ça le nœud du problème. Et au fond, la question préalable qu'on pourrait poser aux 190 pays et quelques qui siègent aux Nations Unies, c'est « comment faites-vous chez vous ?» Oui, la reliance est une question universelle. Mais ce qui fait de la France un pays plutôt original, c'est notre façon d'y répondre. Elle porte un nom, laïcité. L'exception, ce n'est pas de vivre en République, hein, il n'y a pas que des monarchies et des autocraties dans le monde. L'exception, c'est que cette République soit définie dans le texte de la Constitution comme indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ce que ne sont pas les républiques fédérales comme l'Allemagne et les États-Unis. La France est bien le seul pays d'Europe qui fait figurer la laïcité au sommet de la hiérarchie des normes et où le blasphème ne fait l'objet d'aucune disposition pénale. C'est un pays, en effet, où le sacré n'est pas synonyme de religieux, où le maillage du tissu social n'invoque aucun être, aucun événement surnaturel, qu'il s'agisse de Dieu, du grand être ou d'une révélation. Parce que ce qu'admet et professe l'état de droit occidental ordinaire, si j'ose dire, c'est la liberté de croyance. Mais elle n'exclut pas qu'une religion puisse être d'État, pourvu qu'elle n'entraîne pas une atteinte à la liberté religieuse pour les personnes adhérant à une autre religion. En Allemagne, par exemple, l'État recouvre le denier du culte par la voie fiscale. Au Royaume-Uni, doté d'une église établie, l'anglicane, le chef de l'État est le chef spirituel de l'église. Dans les pays scandinaves, à divers degrés, les églises protestantes sont des religions de l'État, comme l'église orthodoxe est dite religion dominante en Grèce. Et en Italie, où le blasphème reste un délit, comme en Angleterre d'ailleurs, le crucifix continue d'orner tribunaux et salles de classe. On comprend dès lors que notre pays offre à tous les fous de Dieu une cible de choix. Et on comprend même que notre pays n'est pas en odeur de sainteté chez ses propres homologues. N'oublions pas que la République française est en position d'accusé sur une liste de 28 États où la liberté de conviction est dite maltraitée ou minorée. Oui, c'est dans un rapport spécial de l'ONU sur la liberté de religion dans le monde, datant de 2004. C'est un pays où l'interdiction des signes religieux à l'école seulement, hein, parce que l'interdiction du voile intégral sur la voie publique n'obéit qu'à des motifs d'ordre public et de sûreté. C'est donc ce pays où l'interdiction du voile à l'école, mais aussi de la kippa ou de la croix pectorale, le seul pays où la répression et le contrôle des sectes et le fait de ne pas donner de droits particuliers à des minorités sont tenus en Amérique outre-Atlantique pour des atteintes aux droits humains. D'ailleurs, chez nous, le mot « secte » est un terme péjoratif, ce qu'il n'est pas du tout dans le monde anglo-saxon. C'est dire à quel contresens peut donner lieu à l'extérieur de notre pays le substantif « laïcité ». Il a beau dériver d'un terme du vocabulaire chrétien, le « laos » grec opposé au « kleros », c'est-à-dire le laïc et l'opposé du clerc, ça n'en reste pas moins un néologisme forgé en France dans les débuts de la Troisième République et dont la traduction reste un casse-tête. Hein. L'hébreu ilani, par exemple, qui veut dire profane, et l'arabe alémani, qui veut dire érudit et savant, sont des faux frères, comme le secular anglo-saxon. Mais la confusion la plus navrante qui sévit dans le monde arabo-musulman, c'est la traduction de laïque par sans religion, qui dans ce monde est une insulte. C'est un lamentable contresens. Est-ce qu'il faut rappeler que, sous notre Troisième République, ce sont les penseurs et les politiques protestants qui ont été les pionniers de la laïcisation? Alors passons sur les bévues. Enfin, mentionnons-les tout de même, les bévues qui ont cours un peu partout, en France et ailleurs. Non, la laïcité n'est pas un athéisme soft. Elle n'est pas un parti pris anti-religieux. Nos écoles confessionnelles sont soutenues et subventionnées dès qu'elles sont sous contrat. Et la République assume l'entretien très coûteux des cathédrales et des églises bâties avant 1905. Et j'ajoute que les ministres des cultes restent des fonctionnaires en Alsace-Moselle. Mais la laïcité n'est pas non plus la tolérance. La tolérance est un mot que Mirabeau jugeait injurieux. Pourquoi ? Parce que la tolérance, c'est de l'indulgence. C'est une indulgence propre à l'Ancien Régime. C'est, si vous voulez, la condescendance d'un supérieur qui lève un interdit parce qu'il lui semble bon ou qui octroie telle ou telle impunité à un inférieur. Disons, le maître tolère, le maître souffre la différence d'un obligé qui n'est pas son égal et il le fait, mais il pourrait ne pas le faire. Ainsi, l'édit de tolérance du 29 novembre 1787 qui accorda aux protestants un état civil en propre. Ce fut une concession de Sa Majesté. Eh bien, un droit n'est pas concédé. Il est reconnu. Et la tolérance est à la laïcité ce que la charité est à la justice. Alors, ces flottements d'interprétation s'expliquent. Parce que la laïcité, curieusement, ne fait l'objet dans nos textes fondateurs d'aucune définition claire et nette. La fameuse loi de 1905, dite de séparation des églises et de l'État, avec ses formules éclatantes, la République assure la liberté de conscience, elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, formule célèbre. Eh bien, cette fameuse loi, elle ne fournit aucune définition de la laïcité, et mieux encore, le mot de laïcité n'y figure pas plus que celle de religion. Il faudra attendre 1984 pour que laïcité apparaisse en toutes lettres dans notre législation, dans une loi sur l'enseignement agricole. Alors, c'est vrai, ce flou, il a au moins un avantage. Il permet à tout un chacun de s'approprier un mot fétiche, quitte à le tordre dans son sens, et il a aussi l'inconvénient de le vider de tout sens précis. Alors, s'il faut trouver une définition la plus sobre possible, je crois qu'il faut la chercher, non pas dans un texte, mais dans une intervention orale, d'un grand résistant d'origine protestante, André Philippe, à l'Assemblée constituante de 1945, la même qui fit inscrire le mot dans la Constitution. Et que nous a dit André Philippe à l'époque, à la tribune ? Ceci, le cadre laïque se donne les moyens de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions au lieu de les juxtaposer en une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives. Fin de citation. Alors là, si vous voulez, tout est dit. D'abord, la laïcité, c'est un cadre. Ce n'est pas le tableau. Cela peut se remplir comme on veut, avec une sagesse, une religion ou l'irreligion de son choix. Ensuite, un territoire, faire coexister sur un même territoire. Oui, il y a un ancrage, il y a des frontières, il y a une souveraineté politique. Ce n'est pas une morale atmosphérique, il faut une puissance publique. Enfin, le péril à conjurer est noté noir sur blanc, une mosaïque de haine mutuelle. Ce qui est à peu près l'état du monde aujourd'hui. Il y avait du Cassandre chez cet homme politique à longue vue. Quand on a la foi, on a une conviction qui n'est pas une opinion. Nous, disons la plupart d'entre nous, nous n'avons que des opinions sur le cours des choses, sur les valeurs en concurrence, et on ne prend pas le mort aux dents pour une opinion. Il nous arrive même d'en rigoler de bon cœur. Chat échaudé craint l'eau chaude. Dans nos vieux pays, recrues d'épreuves et de désillusions, nous avons des colères, oui, mais elles sont courtes, suivies d'un haussement d'épaule assez rapide. Une opinion, on en change d'une année sur l'autre, ça ne colle pas à la peau, ça se contredit, ça ne se blesse pas et ça ne crie pas vengeance. Mais il y a en Europe des minorités et à nos frontières des peuples entiers qui n'ont pas d'opinion mais qui ont des convictions. Et ça, c'est une toute autre affaire. Une foi religieuse, ça engage le corps et l'esprit. Et certains croyants sont même prêts pour elle à se faire exploser au milieu d'une foule en tuant le plus de monde possible. On les appelle des fanatiques. Ce qui pose un sérieux problème de coexistence. Parce qu'il n'est jamais facile de vivre quand on a une conviction avec ou au milieu de gens qui en ont d'autres, non moins fortes et susceptibles que les vôtres. Et il est encore moins facile de faire se côtoyer pacifiquement des gens foutistes et des illuminés, des gens à sang-froid et des gens à sang-chaud. Surtout quand les groupes convictionnels, avec les migrations de masse, les exodes, les guerres civiles et les facilités de circulation, se multiplient en Europe et partout. Et cet entremêlement met plus à vif que jamais le « dislike of the unlike », comme disent bien nos amis anglais. « The dislike of the unlike », c'est-à-dire le rejet viscéral du dissemblable. Rejet qui est propre à tout le monde animal, dont l'espèce humaine fait malheureusement partie. Et qui pousse très sottement, car elle n'est pas bienveillante, l'espèce animale, qui pousse très sottement chaque communauté à s'estimer supérieure à ses voisines de l'autre côté de la frontière. Comment créer un espace de solidarité ?
Thank you.
Les avoirs ou les biens communs ne suffisent pas à créer ce qu'on appelle une affection societatis. Et d'avoir un intérêt commun à maintenir en l'état l'atmosphère, les océans et les forêts, c'est bien, mais ça ne suffit pas à faire de l'humanité une même famille. Le sentiment d'une communauté de destin, ça exige un peu plus, ou un peu moins si vous voulez, qu'un raisonnement ou un calcul d'intérêt. Il faut une conviction qui touche non pas l'avoir, mais l'être même des individus, et qui puisse être un principe de solidarité, au nom duquel on se sent responsable les uns des autres. Alors, ces principes, toutes les sociétés en ont, mais c'est pas le même. Il y a le principe génétique, ou présumé tel, enfin, c'est la race, ou la communauté de sang. Il y a le principe, disons, ethno-culturel, la communauté de langue, par exemple. Et il y a, ou il y a eu, pendant très longtemps en Occident, le principe confessionnel. Je dois partager la religion de mon souverain. Je dois partager la religion de mon État. Ça s'appelait cuius regio et jus religio. La religion du roi doit être la mienne. Autrement dit, pendant très longtemps, le nœud fédérateur n'était pas de libre choix et qui n'avait pas la même religion n'avait qu'à décamper, par exemple, les réformés au royaume de France, ou à disparaître, comme les chrétiens ou les yazidis en Irak. Donc, il y a différents critères d'inclusion, et ils ont tous pour envers une exclusion qui n'est pas arien ou supposé tel, ne pouvait être allemand dans le Troisième Reich. Qui ne parle pas le basque ou le corse n'est pas, aux yeux de certains, un vrai basque ou un vrai corse. Et qui n'était pas catholique sous Louis XIV n'était pas français. Donc les religions, elles regroupent, oui, mais elles regroupent en divisant. Ceci explique cela. Et partout où une religion joue un rôle majeur dans la vie publique, s'instaure une fracture dans la société, y compris, comme en Israël, entre juifs laïcs et juifs religieux. Et la guerre civile n'est jamais loin. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui ou hier, ou demain, en Irlande, à Chypre, en Irak, au Soudan, au Sri Lanka, en Centrafrique et en cent autres lieux. Dans tous ces lieux, il y aura toujours au moins dans ces pays des citoyens de première et deuxième classe, y compris si ces pays sont démocratiques. D'ailleurs, un projet de loi constitutionnelle définissant Israël comme un État juif et démocratique prévoit que seuls les juifs devraient avoir des droits politiques, les musulmans et les chrétiens n'ayant que des droits personnels. Et en Égypte, un professeur copte, de religion copte, n'a pas le droit d'enseigner l'arabe, puisque l'arabe est la langue du Coran et que seul un musulman peut l'enseigner à des élèves. En régime de laïcité, en revanche, dans notre régime à nous, aucun credo, aucune ascendance, aucune couleur de peau ne donne de droit sur quiconque. On est ou non pleinement citoyen si on remplit certaines conditions générales, durée de présence sur le territoire, maîtrise minimale de la langue, absence de casier judiciaire, etc. Mais on ne l'est pas à moitié. On est citoyen ou on ne l'est pas. Alors, c'est un modus vivendi, oui. Et il n'élimine pas les animosités entre convictions et confessions juxtaposées. Mais ça diminue notablement les raisons de s'entretuer. Vous direz que c'est pas beaucoup, mais à l'heure où sur les 5 continents, Dieu prend sa revanche sur des contrefaçons séculières qu'il avait un moment sorties de scène, à l'heure où le réenchantement religieux et la guerre civile font un peu partout la paire, et où nombre de pays hier laïcs, Israël, Inde, Égypte, Indonésie, redeviennent à divers titres, avec ou sans le nom des théocraties, je vais vous dire une chose, c'est très précieux. À une époque et dans un monde où la séparation entre l'article de foi et l'article de la loi se réduit en peau de chagrin, ce principe, je vais vous le dire, c'est une bouée de sauvetage. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'en France qu'on peut parler de laïcité. Alors, écoutez, ne soyons pas dupes de certains malentendus. Vous allez me parler de la Turquie. Oui, mais en Turquie, dans la tradition kémaliste, qu'est-ce que ça signifie la laïcité? Ça signifie l'annexion par l'État de la religion, avec un ministère des cultes qui salarie les imams, tous fonctionnaires d'État, et qui va jusqu'à rédiger les prêches du vendredi qui vont être dits dans tout le pays. Le régime turc, si vous voulez, c'est un césaropapisme sans pape, où c'est le Napoléon du jour qui tient la baguette, Erdogan aujourd'hui ou un autre demain, la baguette ou plutôt la férule. Et cette laïcité, elle ne permet pas le libre exercice des cultes, notamment chrétiens. Si la population de l'Empire ottoman en 1914 comptait 30% de non-musulmans, 30 ans après, il n'en reste plus qu'1%. Mais il y a la Belgique, me direz-vous. Oui, la Belgique est un pays frère. Et l'État y est neutre. Mais si vous observez de près, vous verrez que l'État belge reconnaît et finance, sous l'appellation de pilier, 6 cultes. Catholiques, protestants, juifs, anglicans, orthodoxes et musulmans. Auxquels s'est adjoint un 7e, figurez-vous, qui est la famille de pensée dite humaniste. Et elle s'ajoute aux confessions précédentes pour leur faire directement concurrence sur le même pied. Ainsi, il y a en Wallonie un camp de laïcs, mais ce camp n'est pas un englobant, c'est une mouvance parmi d'autres, parmi un puzzle d'allégeance. Alors vous allez me dire, non mais c'est avec les États-Unis qu'il faudrait comparer. Aux États-Unis, oui, il y a une séparation en vigueur, elle est formelle et juridique, inscrite depuis 1789 dans le premier amendement de la Constitution, une séparation entre l'État et les Églises. Qu'est-ce qu'elle dit, cette séparation? Elle proscrit toute religion établie au sens britannique du mot, et elle assure, elle aussi, la liberté des cultes. Aux États-Unis, une seule fois, mais plusieurs confessions. C'est l'avantage du protestantisme. Le protestantisme est né d'une dissidence et il est marié d'emblée avec le pluralisme. En sorte qu'en Amérique du Nord, la loi de séparation est destinée à rendre Dieu libre de l'État, mais non l'État libre de Dieu, comme en France. Le texte américain ne remet nullement en cause la profonde intimité historique et morale entre les églises chrétiennes et la nation, au point qu'on a pu appeler la nation américaine une nation sacerdotale, dans un pays qui fut d'emblée assimilé par ses founding fathers, par ses pères fondateurs, à la terre promise, et où une religion, disons biblico-patriotique, sert à tout moment d'ossature à cette one nation under God, une nation une sous Dieu. Le président américain prête serment sur la Bible. Si c'est un libéral, la Bible est fermée. Comme ça, on ne se compromet pas avec telle ou telle interprétation. Mais je vous rappelle que la plus grande fête nationale, c'est le Thanksgiving Day, qui est une action de grâce commémorant l'arrivée du Mayflower suite à la recommandation de George Washington, qui voulut, dès 1789, que cette date, en novembre, fût célébrée chaque année en honneur du grand et glorieux être, l'être suprême. Donc, l'Amérique a un Dieu, je dirais, minimaliste, et donc un empattement maximal qui permet d'embrasser large et qui sert de clé de voûte à un melting pot patriotique et orgueilleux et qui permet, et cela est salutaire, de surmonter les oppositions de race et de classe, puisque tout le monde a le même Dieu. Les sessions de la Cour suprême s'ouvrent par la formule « God save the United States and this honorable court ». Des États fédérés, notamment dans le Sud, pouvaient jusqu'en 1963 organiser des lectures de la Bible et des prières dans les écoles publiques. Disons que c'est un Dieu non confessionnel, mais confédéral, qui prête son œil au dollar, au-dessus d'un « In God we trust », qui est la devise nationale des États-Unis depuis 1956. Et d'ailleurs, chaque traumatisme, chaque déclaration de guerre fait remonter à la surface par un instinctif retour aux sources cette religiosité originelle et organique. Vous verrez, vous avez vu, nous avons vu le National Prayer Breakfast après le 11 septembre, les veillées de prière à la Maison Blanche et les appels à la croisade contre l'axe du mal. Autrement dit, comme l'avait d'ailleurs senti Tocqueville, aux États-Unis, la religion reste, en tant que puissance instituante des pouvoirs institués, la première institution politique du pays. Ce qui fait entre la France et l'Amérique, je dirais, deux orthodoxies, deux vigilances de sens contraire. La veille américaine, sa veille à ce que l'État ne se mêle pas des affaires de Dieu, qui ont la prééminence. La veille française, ça enjoint au ministre de Dieu de ne pas se mêler des affaires politiques qui ont la primauté. Voilà. Il y a des siècles d'histoire qui expliquent ce contraste des vocations respectives. La France a été mise à feu et à sang par les passions religieuses au XVIe siècle. Elle a fait sa révolution bourgeoise au XVIIIe contre une monarchie de droit divin appuyée sur le clergé avec en face d'elle une église imposante. Il y avait 225 000 prêtres en France en 1905. Une église hiérarchisée, dogmatique, ennemie déclarée des Lumières et sous l'emprise d'un État étranger, celui du Vatican, sous l'appellation de Saint-Siège. Les États-Unis puritains, mi-ploutocratiques, mi-théocratiques, où la foi flirte sans problème avec le fric, ont conquis leur indépendance pour sauvegarder leur droit à la dissidence. Les idées dominantes étant celles des pays dominants, on pouvait s'attendre à ce que le mur de séparation à la mode américaine soit mieux compris et mieux reçu que le nôtre. Sur les autres continents, il est plus adapté à un monde où l'État perd son rôle d'instrument de cohésion de la société civile. Il est plus adapté au réenchantement religieux de la planète. Et d'ailleurs, la séparation à la française, elle est battue en brèche chez nous, par le nouveau droit européen, sous hégémonie anglo-saxonne, et en particulier par les derniers arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a introduit cette nouvelle notion de la libre jouissance des droits à la liberté religieuse. Maintenant, si j'ose dire, passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire aux choses d'aujourd'hui. Eh bien, je dois vous dire que notre laïcité est un chef-d'œuvre en péril, qui doit faire face non seulement à l'isolement international, mais si j'ose dire, à des menaces à l'intérieur même du pays. Je veux parler d'une triple crise d'autorité affectant à domicile. D'abord le vrai, ensuite l'État, enfin l'écrit. Alors, passons-les brièvement en revue, ces menaces. Le vrai. L'égalité en droit et en dignité de tous les êtres humains, hommes ou femmes, chrétiens ou musulmans, athées ou bouddhistes, elle ne procède pas d'un bon sentiment. L'unité du genre humain, ce qui fait de l'humanité un seul peuple, elle a pour preuve, elle a pour garantie l'universalité du savoir. Il n'y a pas de mathématiques luthériennes, il n'y a pas de physique hindouiste ou de chimie coranique. Or le savoir, ça ne se transmet pas par des jeûnes ni par des prières. Ça se transmet par un enseignement, c'est-à-dire qu'une république laïque, elle est enseignante ou elle n'est pas. Son pivot, c'est l'école. Pourquoi ? Parce que les confessions et convictions sont particulières et que la règle de trois, elle est universelle. Parce que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Quoi de plus commun que la raison ? Encore faut-il qu'elle ne soit pas tenue comme une option ou un avis parmi d'autres. Encore faut-il que un raisonnement scientifique n'est pas le même statut que l'homéopathie, que la création du monde en 7 jours, ou que l'infériorité congénitale de la femme. L'apprentissage de la raison rend l'individu libre des opinions, des siennes propres comme celles des autres, en l'élevant au-dessus de ses différences natives ou familiales ou environnementales. Or, avec Hiroshima et Fukuyama, la raison libératrice a perdu son R majuscule, si j'ose dire, et le hussard noir de la République, dans la foulée, son ascendant et son prestige. On ne lui fait plus trop confiance. Malgré, ou peut-être à cause, de l'accélération des avancées scientifiques en biologie, physique, génétique, connectique, astrophysique, etc., la confiance dans l'explication rationnelle du monde n'est plus ce qu'elle était. Ni le progrès, cet euphorique chemin de grue nous conduisant en droite ligne vers les lumières de l'indémontrable au démontré, de la nuit en plein jour. Il y a beaucoup de facteurs qui concourent à ce discrédit. Il y a d'abord la numérique profusion des messages, données, sources d'informations, où s'instaure un « tout se vaut, donc rien ne vaut », et qui efface les frontières entre le vrai et le faux, l'objectif et le subjectif, l'impératif et le facultatif. Autrement dit, n'importe quel 2 plus 2 égale 5 devient une position intéressante et le 2 plus 2 égale 4, une option parmi d'autres. Et un de mes amis, professeur SVT, sciences de la vie et de la Terre, qui exposait en classe de 3e la formation de la croûte terrestre, a vu se lever une main au fond de la classe et l'élève lui a fait remarquer que si telle était son opinion à lui, chacun a droit à la sienne, mais que lui, élève, il en a une autre. Parce qu'il la tient de l'imam de son quartier. Autrement dit, la dérision de la vérité, qui aboutit à faire de la dérision d'ailleurs la seule vérité admise par tous, elle fait chanceler les vertus rassembleuses de l'instruction, fondement de l'éducation, au sens moral, disciplinaire et familial du terme. L'éducation, c'est-à-dire se tenir droit, arriver à l'heure, ne pas copier, écouter le maître, respecter les engagements, etc. Je conclus, quand le socle du savoir tremble, l'idée républicaine n'est plus sûre de ses bases. Alors il y a une deuxième menace, qui ne concerne plus l'école, mais je dirais l'État, et qui est le désarmement de la puissance publique face à la montée des puissances privées, tyrans, AU et ADIA. Toutes les mesures qu'on peut dire de laïcisation dans l'histoire des sociétés ont été le fait d'une volonté politique. Disons-le, elles sont allées de haut vers le bas, de l'État vers la société. Encore faut-il un État, c'est-à-dire un organe du bien commun qui ne parte pas en autre boudin. Encore faut-il une puissance publique capable de fixer le cap et décréter des obligations les mêmes pour tous. Or, notre État stratège ou régulateur, Il a été grignoté d'en bas par toutes sortes de féodalités en voie de reconstitution, et grignoté d'en haut par une bureaucratie européenne irresponsable. Et nous avons donc un État qui s'est déchargé de ses capacités à dire le droit, de ses capacités à fixer la norme, sur une multitude incontrôlée d'autorités administratives indépendantes. Je vous rappelle qu'en France, aujourd'hui, en 2016, nous avons 47 autorités indépendantes. On peut donc parler d'une casse institutionnelle. Et si vous vous ajoutez à cela l'agenouillement universel devant une société civile de plus en plus insociable, il est vraisemblable que cet État perde peu à peu la raison, à commencer par la tant décriée raison d'État, mais je vous rappelle que c'est la raison d'État qui, au XVIe siècle, avec Henri IV, sous l'égide du parti dit des politiques, a pu et su triompher des raisons d'Église. Les raisons d'Église n'ont pas été vaincues par de bons sentiments. Elles ont été vaincues par la raison d'État qui a su mettre hors jeu les factions en guerre qui se réclamaient de telle ou telle secte ou église avec l'appui des royaumes voisins et ennemis. Oui, parce que dans toute guerre civile et même dans tout éclatement national, chaque principauté locale attire tôt ou tard les puissances étrangères. C'est pourquoi une guerre civile devient toujours une guerre entre puissances, une guerre internationale. Autrement dit, si vous voulez, la chose publique a perdu son aura. L'unique apparition d'un lointain asservi qu'elle est aux obligations de proximité, aux fausses bonhomies télévisuelles et aux coups de cœur du jour. Ce ne sont plus les représentants du MEDEF, du CRIF ou de TF1 qui sont reçus en audience par le chef de l'État ou le Premier ministre. Ce sont eux qui vont chez les premiers comme qui va à Canossa. C'est important toujours de savoir qui vient chez qui, n'est-ce pas ? Qui est reçu par qui ? Eh bien, aujourd'hui, je dirais que la cour fait la cour à la ville. Le régalien fond comme neige au soleil de la com. Nos élus cherchent non plus à se faire respecter pour les responsabilités qu'ils acceptent de prendre, mais à se faire aimer pour la personnalité qu'ils disent ou sont censés avoir. Cernés par des gens de cirque et de spectacle, surveillés par l'Europe, complexés par l'Amérique, le pouvoir politique, en perdant sa hauteur, perd ses marges de manœuvre. Il accompagne pour ne pas conduire, il n'agit plus, il réagit. Et au-delà du protocole d'État en miettes, dont on pourrait se passer, c'est évident, ce qui est atteint, c'est la séparation du public et du privé. C'est la capacité à dominer la mêlée des intérêts et des passions centrifuges. Seul ce qui nous dépasse est capable de nous unir, et quand on passe de l'État éducateur à l'État séducteur, la République perd sa vertu fédératrice, elle perd sa capacité à réussir l'exploit du millefeuille, si vous voulez. Parce que, si vous regardez les annales un peu, non seulement françaises mais autres, vous verrez qu'on trouve toujours en amont d'une laïcisation ou d'une pacification sociale. À Henri IV en France, un Juarez au Mexique, un Kemal Atatürk ou un Aristide Briand. Le grand théâtre de la tragédie politique a fermé ses portes, disait Derrida peu avant sa mort, oui, mais que le théâtre lui-même en vienne à disparaître, et ce sera à la société d'écrire la pièce, condamnant le gardien du bien public à courir après toutes les communautés privées pour ne pas faire de jaloux. Je veux dire, à sauter de la synagogue de la rue des Victoires à la Grande Mosquée, en passant par Notre-Dame de Paris, sans s'attarder au temple de l'oratoire, négligence chez nous traditionnelle. Parce que nos protestants sont trop discrets pour intéresser les communicants. Un pouvoir sous influence distribue les coups de chapeau au prorata de la capacité de chaque corporation à ameuter les médias. Chez les protestants, elle est plutôt faible, cette capacité. C'est un phénomène qui pénalise, hein, soit dit en passant, les militaires et les enseignants, dont les colères font peu de bruit, et pas assez d'images au petit écran pour mobiliser dardards, décideurs et ministres. Donc, là où il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'autorité, parce que une volonté politique, ça s'appuie toujours sur une promesse, une perspective d'avenir. Et la crise de l'avenir, c'est aussi une crise de la laïcité. Sans ligne de fuite, chacun se contente de survivre au jour le jour, déjà trop heureux de rester en place. De Gaulle disait « c'est l'État qui fait la France et son absence qui la défait ». Eh bien, l'État absent, la France laïque ne peut que se défaire. Mentionnons enfin un autre facteur d'inquiétude, disons, d'ordre médiologique, je veux dire l'écosystème technique. La laïcité, d'ailleurs comme l'école républicaine, elle est contemporaine de ce que j'appelle la graphosphère, c'est-à-dire la civilisation graphique, la civilisation des livres et de l'imprimé. Nous vivons aujourd'hui la civilisation de l'écran. L'écran aime bien l'écrit, mais il lui préfère de loin l'image. Et l'image n'est pas réflexive. Elle a une électricité très particulière. Et il faut constater que, avec la vidéosphère où nous vivons, il y a eu des changements de portage. Il y a eu l'invasion de la sphère publique par l'impulsif et l'émotionnel, et ce ne sont pas là des dispositions propices à l'esprit d'examen et au recul critique, dont la laïcité est entièrement solidaire. Bref, tout n'est plus rose au pays de Condorcet et d'Aristide Briand. On a beau parler tous les jours de laïcité, chacun a beau brandir ce mot mantra comme ça pour convaincre qu'il en est un chaud partisan. Si on voit les choses en face, on ne dira pas que la partie est perdue. Non, la partie n'est pas perdue. Mais il va falloir attacher sa ceinture parce que ça va secouer. Cela dit, ne nous méprenons pas sur l'objectif. La laïcité n'est pas le laïcisme. La laïcité ne cherche pas à neutraliser, à aseptiser, à décolorer la société en la nettoyant de toute trace de religiosité. Ce serait totalitaire et parfaitement idiot. Ce serait comme un cachet ce saint que je ne saurais voir. Ce serait un « disparaissez-vous, religion de la surface de la terre, confinez-vous aux profondeurs intimes ». Ce serait totalement absurde. Parce que le religieux, ce n'est pas le spirituel. Le spirituel, ça concerne la vie intérieure. Chacun peut faire les choix qu'il veut. dans son fort privé. Mais le religieux, ça se professe au dehors et en public. Cela fait des processions dans la rue, des associations, des journaux. Je dirais que le religieux, il est même fait pour cela, pour arborer des signes extérieurs d'appartenance qui vous permettent de bien vous distinguer de votre voisin. Alors, ne faisons pas de notre laïcité une anti-religion ou une para-religion d'État pour ceux qui n'en ont plus, sur le mode de « ôte-toi de là que je m'y mette ». Soyons plus modestes. Et pas seulement parce que le mieux est l'ennemi du bien, mais parce qu'il faut pas, on ne peut pas demander à la laïcité ce qu'elle n'est pas faite pour nous donner. La loi de 1905, elle ne nous pose pas un ange sur l'épaule, si je peux dire. Une législation, car la laïcité est une architecture juridique, une législation ne crée pas un sentiment d'appartenance, d'entraide mutuelle et de fierté collective. La laïcité ne prétend pas répondre aux questions de fond, si vous voulez, aux « d'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Quelle filiation ? Quelle destination ?» Aucune loi ne peut ni ne doit répondre à ces questions qui sont du ressort de chacun. Chacun en son fort intérieur. La laïcité, d'ailleurs, elle n'a pas d'hymne, elle n'a pas de chanson de marche. Même si la République, jadis ses orphéons, du temps où l'on pouvait mourir pour elle. La République peut chanter, mais pas la laïcité en tant que telle. Sa ligne mélodique est pauvre, son imagerie également, et l'homme est sujet aux images. Elle ferait pour le moins sourire, cette laïcité, si elle s'avisait de rivaliser avec des convictions polies par les siècles, infiniment mieux armées qu'elle, pour nourrir l'espérance ou l'utopie bienfaisante. La laïcité n'est pas un analgésique, comme peut l'être une religion. Elle n'est pas douée non plus pour le merveilleux. Elle n'est pas faite pour bercer la misère humaine. Et la critique rationnelle des rêves collectifs ne fera jamais un rêve collectif. Vous connaissez la phrase célèbre, celle de Danton, « On ne détruit que ce qu'on remplace ». Et si la laïcité s'avisait de remplacer la religion, il faudra qu'elle devienne elle-même une religion. Mais si notre laïcité faisait une religion de remplacement, elle ne serait plus ce qu'elle est. Elle serait la religion de certains contre d'autres. Elle ne serait pas un cadre de coexistence entre valeurs, mais une valeur parmi d'autres. Un laïc n'a donc pas à être envieux de ce qui n'est pas, si j'ose dire, de son royaume ou de son ressort. Il est vrai que la scène publique connaît aujourd'hui un évidement désenchanteur, disons, un certain vide, où s'agitent beaucoup de gestionnaires sans doctrine ni longue vue. Et cet évidement, joint à l'affaissement des vieux rituels républicains, je veux dire le baptême républicain, le parrainage du même nom, le mariage civil, les funérailles non religieuses, tout cela engendre un orphelinat symbolique qui fait un drôle d'appel d'air. Mais enfin, on aurait tort, me semble-t-il, d'attendre d'une architecture institutionnelle les frissons, les battements de cœur que seule une légende, un mythe ou un grand récit mobilisateur pourrait offrir aujourd'hui. On ne voit pas que le droit civil puisse rivaliser en ferveur avec la justice divine, car tout enthousiasme collectif exige son petit grain de folie, si vous voulez. Et le laïc, dans ce domaine, est plutôt rabat-joie. C'est d'ailleurs, entre nous soit dit, toute la difficulté de ce qu'on appelle une politique de la raison. Une politique de la raison, c'est un peu la quadrature du cercle. Parce que il n'y a pas de politique sans l'appoint d'un irrationnel, d'un imaginaire, d'une mythologie, en sorte qu'un rationaliste ne peut se mêler des affaires publiques, ni a fortiori gouverner, sans se renier en tant que rationaliste, et sans piocher dans l'arsenal, je dirais, infralogique et sous-cutané de ses adversaires. Ce qui fait que les hommes d'État doivent remplir, je dirais, leur devoir d'extravagance, mais en faisant la part du feu. Un grain de folie, mais pas plus. Bon, vous avez compris que c'est un art subtil et périlleux pour un homme de raison que d'assumer une responsabilité politique, c'est-à-dire que de mobiliser les masses, comme on disait jadis. Oui, revenons à Condorcet, si vous voulez. Un État laïque se prive, disait-il, du droit de décider où se trouve la vérité, où réside l'erreur. Un État laïque n'est pas l'arbitre des croyances, puisqu'il n'en assume aucune en particulier. Un État laïque ne dit pas où est le vrai, où est le faux, où est le juste, où est le non-juste. Son seul catéchisme, s'il en a un, c'est la Déclaration des droits de l'homme, qui serait le texte qu'il s'autorise à afficher dans les commissariats de police, dans le hall des écoles, le texte qu'il peut invoquer au tribunal, soit, c'est vrai. Mais ce texte, il ne dit rien sur ce qu'il convient d'aimer, d'espérer ou de haïr. La laïcité est muette sur les valeurs ultimes et les fins qui y ordonnent une existence. Et disons-le, une législation, ça ne fait pas une culture, pas plus qu'un code civil ne fait une mémoire et des décrets-lois une table de valeurs. Il ne saurait y avoir de vérité d'État ni de doctrine imposée, comme ont tenté d'en instaurer nos lois mémorielles, anti-laïques s'il en est, qui veulent réglementer la recherche historique ou intellectuelle au nom de ce qu'on pourrait appeler une vérité d'État. Ça, c'est pas la laïcité. Une école, elle est républicaine quand elle enseigne non ce qu'il faut penser, mais comment s'y prendre pour penser par soi-même. Cette abstention délibérée, je crois que c'est ce qui fait à la fois la grandeur et la servitude d'un principe de laïcité qui a le tort, mais aussi le mérite, les deux à la fois, le tort et le mérite, de se lier les mains en s'abstenant de répondre à la question du sens de la vie et de la mort. Et alors, c'est bien ce qui permet à de nombreux, enfin, à certains prêtres, pasteurs ou imams, disons, à certaines confessions religieuses, de dire que la laïcité est une coquille vide et formelle. Ben, ils n'ont pas tort. Eux, je dirais, elles, les confessions religieuses, se posent en instance instituante des institutions humaines, donc au-dessus des institutions humaines, puisque parlant au nom de Dieu, et que Dieu, pour elles, est le seul énonciateur en dernière instance de la vérité et du bien. Alors, oui, pour parler franchement, dans le vis-à-vis des églises et de l'État, il faut reconnaître que l'État, c'est le pôle faible, parce qu'il a la force physique, mais il n'a pas de métaphysique. L'Église peut dire qu'elle est la fontaine de vie. Elle a la fontaine de la vie. L'État, il n'a que la marée chaussée et la sécu. L'Église m'indique la voie à suivre pour ne pas finir en enfer, la République les règles à respecter pour ne pas finir en prison. Sous l'angle des rétributions auxquelles on peut s'attendre, vous et moi, la loi contre la foi ou encore l'amnistie contre le pardon, ou encore le péché contre le délit, c'est peau de terre contre peau de fer. L'offre laïque, qui est la paix civile ici-bas, est sans doute modeste à côté des houris paradisiaques et de la félicité éternelle promise par les religions. Mais, après tout, l'échange d'un ici-bas vivable contre un au-delà des plus hypothétiques, ce n'est peut-être pas un marché de dupes. Cela n'étanche pas la soif d'absolu, mais au moins c'est du cash et du concret. Eh bien, il me semble qu'il y a de la grandeur dans le pari laïque, car c'est un pari, un challenge, comme on dit aujourd'hui en franglais. Un laïc, il est d'avis qu'une société sans dogme, ni prophète, ni messie n'est pas condamnée à l'angoisse du vide, ni à l'anorexie. Il est d'avis qu'il incombe au libre arbitre de chacun, avec les moyens du bord, de faire son plein d'imaginaire et de fins ultimes, son plein d'essence, si vous voulez. Ce qui autorise l'entre-nous laisse à chaque moi-je le soin de choisir son horizon de sens, le soin d'épouser la folie qui lui permettra de se dépasser, si l'on admet, avec La Rochefoucauld, que celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'on croit. La laïcité, c'est rien moins que la transcendance en autogestion. Un pari optimiste sur l'aptitude des individus à s'inventer eux-mêmes leurs emportements fraternels sans égard pour le triste principe de précaution. La laïcité, oui, c'est un humanisme plein d'audace, une très belle ambition, et je n'en vois pas, pour l'heure et pour ma part, de plus respectable. Je vous remercie.
C'était Allons au fait, une émission proposée par Régis Debray, réalisation Rafik Zénine. Réécoute et podcast sur la page de l'émission sur le site de France Culture.